vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre. Film intérieur, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Les jours passent. Et un jour, il reçoit une lettre de Guillaume, le gentil Guillaume, qui lui dit qu'il sera de retour le 15. C'est-à-dire en 3 jours. D'abord, j'ai beaucoup pensé à toi. Et j'ai hâte de te voir. Que l'on est touché par cette lettre. Comme Guillaume lui a donné l'ordre de son arrivée à l'aéroport de Paris, il décide d'aller le chercher. Le voit arriver au milieu des voyageurs. Guillaume n'a pas changé et son charme prend tout de suite. Son regard un peu enfant, ses mouvements un peu gauches, habillé simplement d'un vieux blouson de cuir marron, d'un pantalon velours noir, il porte à la main une vieille valise en carton vert. Ils se reconnaissent tous deux et courent l'un vers l'autre. « T'es venu à l'aéroport m'accueillir ?» C'est gentil, Nicolas lui dit. Oui, tu as fait bon voyage.
Je la remets tout de suite à sa place.
Oui,
Guillaume
sourit.
Les passagers sont invités à se présenter, porte numéro 33.
Lâche sa valise et embrasse sur les deux joues son ami. Il lui dit, je suis heureux de te voir. Nicolas prend la valise et lui dit, viens à la voiture. Et ils vont vers la voiture. Nicolas,
les passagers sont invités à se présenter, porte numéro 33, donnez leur carte d'embarquement, merci de votre attention.
A mis en marche la voiture. La voiture file et va chez Guillaume. Tout en roulant, Guillaume demande. Quoi de neuf à Paris?
Rien. Paris 7 Guillaume.
Guillaume lui dit. J'ai vu le film que tu as fait avec Y.
J'ai été jaloux.
Nicolas lui dit. Il n'y a pas de quoi. Il n'y aura jamais rien avec Y.
La voiture s'est arrêtée en bas de l'immeuble de Guillaume.
Une sorte de voiture.
Guillaume a pris la valise qui était sur le siège arrière. Il regarde autour de lui et dit « Paul Canada, ça paraît étroit, sale et étouffant. Je ne sais pas si je pourrais vivre ici. » Voilà, lui dit. Et à la campagne, non plus. Je serai trop loin de toi, et puis j'ai besoin de spectacle.
Ils entrent dans l'allée.
Qu'est-ce que ça peut puer ?
Ouvert son appartement, je semble renfermé. J'ai ouvert les fenêtres et les volets.
C'est pas possible. Si petit que ça chez moi, c'est moche, moche.
Cola lui dit,
tu n'avais même pas fait ton lit avant de partir.
Guillaume lui répond,
ça c'est ta faute. Tu te souviens de notre dernière nuit, avant que je parte? J'ai eu envie d'y laisser des traces. Assieds-toi.
Nicolas s'assoit sur une chaise.
Guillaume quitte son blouson et baisse au-dessus d'une chaise et lui demande « Tu veux voir quelque chose ?»« Oui, je veux bien. »« Bourbon ?»« Oui. »
Guillaume va chercher son buffet cuisine, la bouteille et deux verres. Puis va vers Nicolas, pose les verres et la bouteille, les verres et les bouteilles, et serre. Tiens, merci. Puis il s'assoit à côté de lui.
Nicolas lui demande « Comment ça s'est passé ?»« Très bien. Le pays est très beau, formidable. C'est clair, grand, vaste. Les appartements sont d'une grandeur. Les rues larges, les voitures immenses. Le pays est très riche. J'ai vu dans des vitrines de banque des poussières d'or, de la poussière d'or qui se volait. Tu te rends compte? Et puis, les gens sont très propres là-bas. Pas de saleté à terre. Les animaux domestiques en ville sont interdits. Il n'y a qu'en France où c'est dégueulasse. Nicolas lui demande, et ton film? Le tournage s'est passé d'une façon très artisanale. Manque de professionnalisme. Le film n'est pas bon. Scénario mal foutu. C'est un mélange de mauvais goût et de lyrisme de pacotille, irréel, qui rend une histoire très simple, incompréhensible. Cola lui dit, je vois, et je suis sûr que ça va plaire aux intellos. Ils vont trouver ça très formidable, et Caillet et Télérama vont aimer. Je vois déjà la chose. Un portrait type de film sans vrai scénario. Young boy. Nicolas lui dit. Tu as sommeil? Tu es fatigué? Oui, un peu. Changement d'heure et le voyage? Nicolas lui dit. Je vais te laisser te reposer. Guillaume lui dit. Tu veux pas qu'on se repose ensemble? Nicolas finit son verre. Tu dors déjà? Il se lève. Ne me raccompagne pas. Couche-toi. Il se baisse pour donner un baiser sur la joue à Guillaume.
Et le kit.
Après-midi, Nicolas est seul chez lui à son bureau à régler ses factures.
On a sonné à la porte. Nicolas se lève pour aller ouvrir.
C'est Guillaume. Bonjour Guillaume, entre. Guillaume entre. Guillaume lui demande, je te gêne? Non, pas du tout. Viens, allons au salon.
Il le mène au salon.
Viens, entre. Assieds-toi sur le divan. Et s'assoient tous deux sur le divan. Et s'assoient tous deux sur le divan.
Nicolas lui demande, tu vas mieux?
Oui, bien réveillé. Je suis venu savoir ce que tu faisais.
Rien de spécial, Guillaume lui dit.
Et ce soir?
Rien non plus,
Guillaume lui dit. Si tu veux, on peut passer la soirée ensemble.
Oui, je veux bien. Qu'est-ce qu'on fait?
On ira au restaurant, après nous verrons.
Je viens de te prendre à 20h.
Nicolas lui dit, c'est très bien, tu as des projets?
Non, rien. Je me repose après l'on verra.
Et Y? Nicolas dit, il va bien, je le force à poursuivre ses études.
Il habite toujours près de chez toi?
Oui. C'est lui qui l'a voulu. Guillaume soupire.
Nicolas lui dit, il n'y a rien, il n'y aura jamais rien, c'est un ange, comme mon frère Denis.
Guillaume lui dit, il y a un ange sans sexe.
Nicolas lui dit, non, mais très pur, trop pur pour qu'on y pense.
Guillaume lui dit, moi j'en ai un, et j'aime ceux qui en ont.
Il se lève et lui dit, je vais te quitter, j'ai des courses à faire. Laver mon linge, régler mes factures et tout, quoi.
Nicolas lui demande, je peux t'aider?
Oui, je veux bien, ça ira plus vite pour les courses.
Nicolas se lève, alors allons-y.
Et ils passent la journée ensemble à faire tout ce qu'il y a à faire.
Nicolas prête même un peu d'argent à Guillaume, qui est un peu raide. Et oui, jouer un film intello, ça ne rapporte pas beaucoup. Ils ont déjeuné ensemble, chez Nicolas, et après fait le linge de Guillaume. Il y en a beaucoup. Puis sont allés à la banque régler les problèmes de facture, et se sont détendus chez Guillaume en attendant 20h, à écouter de la musique et discuter. Puis, ils sont allés au restaurant.
Guillaume lui a dit, c'est moi qui paye.
Pourquoi?
Parce que c'est moi qui fais ton retour. Et puis, je suis tellement heureux d'être près de toi. Là-bas au Canada, je n'ai pensé qu'à toi. Je ne veux pas savoir que tu m'as manqué. Gola est gêné et lui dit, je risque certainement de te décevoir. Tu as trop d'espérance sur moi, Guillaume lui dit. Sûrement pas. Nous verrons plus tard. Pour le moment, mange. Enfin de la cuisine française. Nicolas lui dit, tu sais la cuisine française, pour ce qui en reste. Et puis, les jeunes s'en fichent. Guillaume semblait tout excité, ils sont allés finir la soirée chez Guillaume. Ils sont assis, Guillaume sert à boire. Puis Guillaume lui dit, tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Non, Guillaume lui dit en le regardant bien dans les yeux. Chez moi, c'est qu'on recommence le petit jeu de lit, que la souris lui dit. Il est vrai, c'est que tu es mignon et gentil, et en compagnon de lit agréable. Guillaume lui dit, alors, c'est oui?
Oui.
Commence pour Nicolas une vie à trois si l'on veut, c'est-à-dire qu'il va de Guillaume à Y, et il peine de bonheur. Il va chez Guillaume, puis chez Y. Y ne connaît pas les rapports qu'il y a entre Nicolas et Guillaume. Y va dans l'appartement de Nicolas. Il a les clés.
Nicolas, tu es là? Il entend? Il entend du bruit d'un... qui est en direction de la chambre. Il y va. La porte est ouverte. Il voit Nicolas et Guillaume au lit. Nicolas soit Guillaume. La dégoûte, Y, furieux, pousse un cri. Oh! Nicolas a vu Y crier. Un cri furieux contre lui. S'habille en vitesse. Entendu la porte claquer. Nicolas, pris dans la main, contre la tête, contre la tête. Il entend les pas d'Y qui descend les escaliers. Et il crie, Y, Y, viens. Nicolas court, descend les escaliers pour le rattraper. Malheureusement, lorsqu'il arrive devant toi, il est déjà sorti. Nicolas sort de l'allée.
Et voit Y
traversé la chaussée en courant. Chiclec ! Une voiture l'a renversé. Nicolas a couru vers lui. Jacques est à terre, il ne bouge pas. Couché sur le dos. L'automobiliste confus est près de lui. Nicolas se penche, le touche. Nicolas ne bouge pas. Nicolas! Il caresse ses cheveux. Nicolas voit tout tourner. Il entend la police, les pompiers arrivés. On le sort pour prendre Y, qui est mis sur un brancard. Il est inanimé. Le policier demande à Nicolas. Vous connaissez la victime ?
Oui.
Venez avec nous. Nicolas entre dans l'ambulance. Arrivé à l'hôpital, Y a été mené aux urgences. Nicolas au secrétariat. Une infirmière lui pose des questions sur la victime. Nom, adresse, sécurité sociale, personne à prévenir, etc., etc. Nicolas ne répond n'importe comment. Ce qui compte pour lui, c'est de savoir comment va Y. Après formalité, on va le faire asseoir sur un banc. Une infirmière lui dit, on vous préviendra. Nicolas attend, la tête vide. Nicolas voit arriver à lui Guillaume. Il s'assoit à ses côtés et lui demande « Tu as des nouvelles ?»« Non. » Ils sont gênés tous deux. Ils n'osent pas se parler, ils n'ont rien à se dire. Il demande « C'est vous l'ami de Y Dupé ?»«
Oui. » »«
Nous avons prévenu la famille. Votre ami a décédé d'une hémorragie au cerveau. Je suis désolé. »
Nicolas est effondré.
« Je peux le voir ?»«
Non, demain matin, avec la famille. Courage !»
Et le médecin s'éloigne.
Guillaume lui dit. Tu veux rentrer chez toi?
Oui.
Il quitte l'hôpital, on prit la voiture de Guillaume, qui le ramène jusqu'à chez lui. Guillaume lui dit, je crois que c'est qu'il vaut mieux que nous ne vous voyons plus.
Nicolas sort de voiture en lui disant rien.
Cela se sent coupable. Quelques jours plus tard, il y a eu l'enterrement. Nicolas y est allé et s'est senti gêné devant la famille de Y. Puis, il s'est enfermé chez lui. Il passe des jours seul à penser à ce qu'ils ont fait ensemble. Il a des difficultés à se dire qu'il ne le verra plus. Les jours passent, sombres, pleins de remords. Un jour, il reçoit une lettre du pauvre Guillaume qui lui dit son remords, sa solitude, qu'il a besoin de son affection et qu'il veut le revoir. Nicolas déchire la lettre. Guillaume n'aura pas de réponse. Nicolas ne supporte plus Paris. Tout lui rappelle Y, son appartement, sa rue, le restaurant, les salles de spectacle. Tout lui rappelle Y. De sa fenêtre, il voit la rue où il a été renversé, la chambre où il a été dégoûté. Y lui sent est allé dans son allée où il a couru après avoir été dégoûté. La nuit, nous sommes entendre dans sa voix. Il n'ose pas regarder les films où il est car il le voit sourire, courir, être heureux. Je n'ai beau un ange. Tout semble tourner autour d'Y. Nicolas étouffe. Il ne veut pas d'un Y fantôme, mais d'un Y au souvenir vivant. Abominable, il décide de quitter Paris. Et 2 mois plus tard, après avoir tout vendu, il retourne à Lyon. Il écrit une lettre à ses parents leur demandant de l'aider, de l'héberger quelque temps et quand il trouve un logement. En réalité, il a peur de se retrouver seul comme à Paris. Les parents sont d'accord et le reçoivent. Comme ça. Là, comme la famille ne sait rien, elle le reçoit sans plus. Elle ne voit pas qu'il a mal.
Sa mère l'embrasse et lui dit « Ta chambre est prête. »
Son père « Tu pourras travailler tranquillement dans ta chambre. »
Durant le repas, on lui pose des questions sur la vie parisienne. Il est obligé de répondre avec entrain parce qu'il a peur qu'on la famille dise « Il vient chez nous nous voir comme ça, mais ne nous aime pas. »
Un soir, avant d'entrer au salon, il entend dire sa mère
« Cela ne valait pas la peine qu'il revienne chez nous, si c'est pour nous faire la tête. »
Il entre. « Bonsoir. » Il va s'asseoir à côté de sa sœur.
Qui lui dit, pour détendre l'atmosphère, « Je prépare un voyage pour le Chili. Je vais faire des photos là-bas pour un livre de voyage. Ça te dirait de venir avec moi? Tu pourrais faire un film ?» Paula lui répond.
« C'est compliqué de faire un film là-bas. Il faudrait des autorisations, et puis du matériel et une équipe. Ça prendrait du temps. »
Elle lui dit en soupirant. « Bon, ben tant pis, je partirai seul. » Mon père lui dit,
« Au lieu de courir le monde, tu ferais mieux de te chercher à te marier. J'ai besoin d'un gendre, j'ai besoin d'aide, je suis fatigué. »
Sylvie lui dit, « Pour t'enrichir plus, t'as bien assez d'argent comme ça. »
Son père lui dit, « Mais oui, mais oui, mais oui. Vous, mais vous, non. C'est pour ma famille, en plus, et plus pour moi. » que je m'enrichis.
Ne riez pas, lorsque je ne serai plus là, vous serez bien heureux d'avoir de la fortune. Et dites-vous bien, c'est que si je ne vous aidais pas, vous ne pourriez pas vivre comme vous vivez.
Vous riez sous cape, vous crachez dans la soupe, mais le jour où elle va vous manquer, où les assiettes seront vides, vous verrez la différence entre une assiette vide et pleine. Pour le moment, vous ne la voyez pas, parce qu'elle est toujours pleine.
Chaque fois qu'il voit Denis, son frère, Nicolas a de la peine. Il ne peut s'empêcher de penser à Y. Ils se ressemblent tellement.
Denis s'aperçoit un soir, après le repas, que son frère ne parle pas. Il lui demande « Qu'as-tu ?»
Nicolas lui dit « Un de mes amis est mort. C'était un très grand ami. Bon, gentil, intelligent, tout. Un jeune comédien de ton âge. Nous aimions beaucoup. Il est mort d'un accident. Et c'est de ma faute. »
Denis comprend, embrasse son frère et se retire.
Nicolas n'a pas dit à Denis que c'était Y. Il ne veut pas que la famille le sache.
Elisabeth, un soir, est allée au théâtre avec une de ses amies. Un petit théâtre de poche sur les pentes de la Croix-Rousse. Le théâtre, c'est une pièce minuscule, sombre, avec des gradins en bois. Ça sent la poussière. Genre de théâtre miniature où une bande de jeunes acteurs joue des pièces sociales.
À
la sortie du théâtre, son ami se sent fatigué, la laisse. Je rentre de suite. Je suis trop fatigué. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je rentre à pied. Fais attention, dans un quartier pareil. Ne t'en fais pas. Une fois son ami parti, elle s'est mise en route. La soirée est douce. Elle suit la rue ferme. Comme elle a soif, avant de prendre un taxi, elle pour rentrer chez elle, elle rentre dans un bar pour s'asseoir et commander une bière. Elle commande un fruit défendu. Là, en face d'elle, se trouve un jeune homme dans les 22 ans. Jean, gauche, sale, intello, squat, manif. Il est mince, les cheveux longs, châtains, de grands yeux bleus très clairs, habillé de noir dégueulasse. Elle est éblouie par la beauté des yeux bleus. Lui voit tout de suite qu'elle le regarde. Il se lève vers elle. Elle a le cœur qui bat. Il lui dit « Salut, t'es d'ici ?»«
Non, pas vraiment. »«
Je peux m'asseoir ?»«
Oui. »
Il s'assoit et lui demande « Tu fais quelque chose ?»«
Non, rien. »
Il regarde ses bagues et la main. « Je suis peintre. »«
Oh ! » !»«
Oui, je suis aux Beaux-Arts. »«
Et vous faites quoi comme peinture ?»«
Je fais, c'est de l'art hurlé. »«
Qu'est-ce que c'est ?»«
C'est très simple. Je fais des tableaux en crachant sur la toile. »« Une toile blanche, de la peinture dans la bouche et je crache. »«
Mais ça doit être facile. »
Et c'est peut-être dégoûtant. Mais non, la peinture a bon goût. Et puis je me rince la bouche avec de l'éther.
Quelle horreur!
Vous voulez voir?
Il a de si jolis yeux.
Oui, je veux bien.
Et il l'amène dans une rue lugubre et sale des pentes. Cela fait bien Lyon. La fait entrer dans un vieil immeuble lépreux. L'allée est noire, ça sent le pipi de chat. La fait monter jusqu'au premier, escalier plein d'immondices. Elle frissonne et se dit que c'est les mystères de Lyon.
Entre. Elle entre. Éclaire. Une lampe éclaire au plafond, jaune, blanchâtre. Mur, tapisserie plus de 50 ans, noirci. Une grande pièce vide.
Avec seulement des toiles de peintre. Ça sent la peinture, il y a des taches de partout. Il y a dans un coin un grabat qui sert de lit, matelas et draps pourris, et un réchaud à gaz camping, une chaise et une petite table camping. Après avoir regardé autour d'elle, il la prend par la main et lui montre ses toiles, debout à terre contre le mur. Sont des taches de couleur, simplement une tache sur une toile blanche, une tache rouge ou bleue ou verte, etc. C'est bien un crachat. Elle lui dit,
c'est pas mal.
Il lui dit, je crache ma haine de ma société et mon crachat s'imprime sur la toile. Lorsque je peins, je crie, à bas les flics, CRS-SS. Etc, etc.
C'est très profond.
Oui, il lui dit aussi. Vous aussi, vous êtes pour la liberté, je le sens.
Elle lui répond. Oui,
il lui dit. Tu es une femme libre.
Oui.
Il lui dit. Je vais te faire ton portrait de femme libre.
Il prend une toile bleue, la pose sur le chevalet,
rouge.
Oui, du rouge.
Tu aimes, tu aimes, tu vas prendre ton cri.
Il prend un verre qui est sur la table.
Le remplit de peinture rouge.
Et lui dit, viens contre moi.
Elle s'approche.
Met la peinture dans sa bouche. La plaque contre lui.
Chaque fois que tu crieras, je cracherai.
D'un geste, il lui soulève la robe.
Il crache sur le tableau.
Il lui presse le ventre.
Il crache encore. Il crache.
Il sourit. Il a de la peinture qui dégouline de ses lèvres. L'on voit ses dents rougies par la peinture. C'est dégoûtant, horrible.
Voilà ton tableau. C'est fini, ma chatte.
Il la prend dans ses bras. Il l'embrasse goulûment sur les lèvres. Elle suffoque. L'odeur de peinture, ce beau corps contre elle. Elle ne sait plus où elle en est. Décidément, sa copine avait raison. Quel quartier!
Lorsqu'il a fini de l'embrasser, elle a le bord du visage tout rougi. Elle a l'air grotesque, on dirait une folle. Il a envie de rire, mais se retient. Il demande,
« Il te plaît, mon tableau ?»«
Oh oui !»«
Tu t'y reconnais ?»«
Oui !» Il la caresse très fortement. Elle ne sait plus où elle en est.
Il se dégage.
Il la déshabille. Elle se laisse faire, un peu honteuse.
Reste debout, nouille, au milieu de la pièce. Puis, il se déshabille lui aussi.
Elle le regarde. Il est vraiment très beau.
Je vais t'initier à l'amour sublime. Même ton mari ne t'a jamais fait jouir aussi fort que ça.
Il transpire, est essoufflé, a de la peinture sur le bas rouge, nu. Il se dit que l'on dirait une bête féroce. Elle est prête à subir toutes les humiliations de ce dieu sauvage. Le corps est en ébullition à cause de ses caresses et des baisers.
Il remplit le verre de peinture.
De peinture rouge, elle lui dit.
Tu as été le modèle de mon tableau.
Le tableau te fera modèle.
Sublime, non ?
Oui. Il se verse le verre dans sa bouche et lui crache sur le corps. Elle ressent sur son corps des giclées visqueuses rouges. Elle ne bouge pas. Il continue plusieurs fois. Il lui crache au visage, de partout. Puis rougit son doigt et le met sur sa chatte. Il lui crache la peinture dessus. Elle a la tête qui tourne. Elle ne sait plus rien.
Ensuite, il met à terre un grand papier craft.
Vierge dessus la peinture, puis il pousse Elisabeth vers le papier. Et d'un geste, la fait tomber couchée dessus. Et il se rue sur elle.
Encore taché de peinture.
S'en mêle. Et à chaque fois qu'il bouge, se mélange à la peinture sur le papier. Elle laisse des traces. Et elle abandonne à cette furie.
Jamais elle n'a senti autant de plaisir.
Une heure plus tard, fourbue, plein de peinture, elle reste dans les bras de ce grand dadais. Les cheveux pleins de peinture, le corps aussi. Elle sent une odeur de peinture, elle est gluante, heureuse, rompue. Il lui dit, j'ai peint un autre amour sur le papier. Je le garderai toute ma vie. Ce sera la preuve que nous nous sommes aimés. Tu es heureuse?
Oui,
il lui dit. Il faut te lever et partir. Je vais dormir seule en pensant à toi.
Tu veux vraiment que je parte?
Oui, je veux rêver à ce que nous avons fait en regardant notre toile d'amour. Je veux faire encadrer notre amour. Allons, lève-toi. Elle se lève. Et demande,
comment vais-je faire pour me nettoyer?
Il lui dit, prends la colle à brûler qui est sur la table et un chiffon. Elle y va. Elle voit une bouteille d'alcool à brûler et un vieux chiffon tout sale.
Tu n'as pas un autre chiffon?
Non. Elle soupire. Et s'enlève la peinture. Il reste allongé et la regarde faire. Il a envie de se marrer et se dit « Pauvre conne !» Une heure plus tard, elle a réussi à s'enlever le plus gros de peinture. Le visage est fait, les cheveux, pauvres cheveux, tout rouges et secs. Sur le corps, ça reste encore. Elle sent l'alcool à brûler, à plein nez. Elle lui demande,
« Je ne peux pas me doucher ?»«
Non. Et puis, t'es bien comme ça. Et puis, c'est sur le palier. » Elle soupire. Elle s'habille difficilement. Une fois habillée, elle va vers lui pour lui dire au revoir. Il lui dit, m'embrasse pas, tu es encore toute rouge. Elle lui demande,
nous nous reverrons.
Il lui dit, tu as aimé, hein? Tu as aimé, t'en veux encore. J'ai de la peinture verte, c'est encore mieux. Elle hausse les épaules, lui dit,
arrête de te moquer. Arrête de te moquer de moi. J'ai vraiment envie de te revoir.
Bon, je suis tous les soirs à la même heure au café. Si tu veux me voir, t'as qu'à y aller. Allez, sauve-toi, j'ai sommeil. Et elle quitte la pièce, sentant l'alcool à brûler, à plein nez, et encore pleine de peinture, mais comblée.
Quel amant!
Elle a hélé un taxi pour rentrer chez elle. Il est 4 heures du matin. Sans faire de bruit, elle monte à sa chambre.
se déshabille. Met son linge dans un coin de la salle de bain pour le faire laver.
Et prend un bain avec beaucoup de bain mousseux pour enlever cette mauvaise odeur.
Et se couche.
D'un coup comme une petite fille comblée. Le lendemain matin, elle se réveille à 10 heures, la bouche amère, la chambre belle de soleil. Elle se lève courbaturée, se regarde à la glace et décide d'aller chez le coiffeur. Après avoir pris son bain, et s'est habillée de neuf, elle décide de prendre son petit déjeuner à la salle à manger.
Une fois dans la salle à manger, elle sonne le domestique. On frappe à la porte.
Entrez.
C'est le domestique.
Mainerai mon petit déjeuner.
Bien, madame. Elle va s'asseoir à table.
Soupire. Et pense à sa nuit. J'aurais jamais cru que je fasse des choses pareilles. Les artistes ont de drôles d'idées. Ils ont tous de drôles d'idées, si l'on y pense.
Canouf a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, film intérieur dont c'était la 27e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.